Vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. On parle d'aménagement urbain aujourd'hui. On parle surtout d'un symbole pour toute la francophonie canadienne, la Maison de Radio-Canada. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Alexis.
Alors Jean-Christophe, tu es un habitué de l'émission Le Débrief. Rappelons aux auditeurs que tu es architecte et spécialiste des questions d'aménagement du territoire. Alors c'est un sujet qui fait la manchette depuis plusieurs mois. Il est revenu dans l'actualité ces derniers jours. On parle de la Maison de Radio-Canada, ce siège de la francophonie canadienne et de la société d'État qu'est Radio-Canada. On connaît la tour emblématique qui occupe le quartier sud-ouest de Montréal, la tour qui est tout près du pont Jacques-Cartier. C'est un phare pour toute la francophonie du pays. On a appris que cette tour-là, il y a quelque temps, allait être vendue et les dirigeants de Radio-Canada ont des plans de revalorisation et d'installation dans de nouveaux locaux. Alors, ce que je vais faire, Jean-Christophe, pour bien planter le décor, je vais lire les premières lignes d'un article paru il y a quelques jours dans le journal Le Devoir. La Maison de Radio-Canada ouvrira ses portes en 2020. Donc, la nouvelle Maison de Radio-Canada, on entend bien sûr. La cérémonie de coupure de ruban de la future Maison de Radio-Canada devrait avoir lieu en janvier 2020, a annoncé le diffuseur il y a quelques jours, alors que l'on dévoilait les plans du nouveau bâtiment qui sera construit à l'angle du boulevard René-Lévesque et de l'avenue Papineau. Alors, pour ceux qui sont moins familiers avec Montréal, il s'agit de construire un nouvel immeuble juste à côté de la tour actuelle. Alors, c'est un immeuble qui sera doté de deux tours, l'une de 7 étages et l'autre de 4 étages. La superficie atteint 418 000 pieds carrés contre 1,3 million de pieds carrés pour la tour actuelle. Il y a eu évidemment des réactions et on peut citer par exemple des réactions sur l'opportunité de déménager, l'esthétique, le choix du courtier immobilier qui a été fait, qui aurait des liens avec le Parti conservateur. Donc, cette nouvelle du déménagement a suscité toutes sortes de sous-nouvelles. On ne pourra peut-être pas les aborder dans leur totalité. Jean-Christophe, donc, que t'a inspiré cette nouvelle du déménagement et que t'a inspiré la maquette qui a été développée et dévoilée il y a quelques jours?
D'abord, j'aimerais revenir rapidement là donc sur l'immeuble existant parce oui. que bon celui-ci le projet donc la tour actuelle, les studios actuels de Radio-Canada qui ont été construits en 1970 c'est pas non plus un exemple de traitement urbain éclairé, là, dans le sens qu'ils ont essentiellement démoli un quartier ouvrier. Ils ont construit un énorme stationnement avec une tour sur un basilaire donc qui loge là, tous les studios de Radio-Canada, là, les studios principaux de Radio-Canada. Donc, ce n'était pas un projet fantastique, sauf qu'évidemment, lorsqu'on parle de déménager, de reconstruire un nouvel immeuble, de réutiliser cet énorme terrain autrement, ben il faut quand même garder un certain esprit critique par rapport à ce qui est proposé.
Oui.
Donc c'est un énorme terrain qui est occupé par un stationnement. En ce moment, la majeure partie du terrain est occupée par un stationnement. Il y en a une partie qui est occupée donc par la tour et son basilaire.
J'allais dire simplement que c'est une illustration classique d'une certaine philosophie des années 60 et 70, cette tour de Radio-Canada. Mais malgré tout, avec les années, elle a pris une valeur emblématique et symbolique importante et elle a fini par être adopté quelque part par les Montréalais et plus largement par les Canadiens, puisqu'elle avait une forme très reconnaissable, elle se détachait nettement dans l'espace urbain.
Tout à fait, dans le paysage là, donc, du quartier centre-sud.
Oui.
Ce qui est proposé essentiellement, c'est de vendre la tour et le terrain au complet à un promoteur qui, lui, construit un nouvel immeuble qu'il louera à Radio-Canada.
Oui.
Ce sera un bail de 30 ans.
Oui.
Donc, en fait, c'est plus à ce niveau-là, pour moi, qu'il y a un problème. Et puis, en plus, oui, non seulement ça, mais la maquette témoigne un peu de cette nouvelle philosophie où,
oui,
où en fait, il n'y a pas vraiment eu de réflexion sur comment utiliser ce terrain-là. On a,
oui,
simplement vendu au consortium qui arrivait avec la proposition qui,
oui,
semblait la plus rentable.
Alors, on regardera...
La réflexion semble s'arrêter là un peu.
On s'arrêtera sur la qualité esthétique du dessin qui a été dévoilé. Mais rappelons que le président de Radio-Canada, qui a été nommé par Stephen Harper il y a quelques années, Hubert Télacroix, a souligné et insisté lors de la conférence de presse que toute cette opération immobilière était à coût nul. Donc, aucun argent public ne sera nécessaire. Les contribuables n'auront pas à débourser puisque c'est une astuce finalement. On vend la tour et avec l'argent de la tour, on se construit de nouvelles installations plus modernes, plus adaptées à l'ère numérique. C'est en tout cas le discours qu'on nous sert et on nous dit, vous savez quoi, ça nous coûtera rien en plus.
Sauf que c'est ça. Moi, je crois que l'élément important du discours, c'est que ça ne nous coûtera rien de plus. On se souvient que c'est un peu là que s'arrêtaient les ambitions étatiques de Harper. Or, on peut supposer qu'il y a quand même quelque chose de pertinent à dépenser quelques deniers publics pour s'offrir,
oui,
un équipement de qualité.
Oui, absolument.
Et qui a un impact ensuite sur la ville aussi, parce que c'est quand même un terrain énorme au milieu d'une ville, dans le centre d'une ville. Donc,
oui,
il y aurait eu l'occasion de réfléchir un peu dans le développement de ce terrain-là à autre chose que simplement offrir des nouveaux locaux à coût nul.
Ouais.
Et puis, l'affaire, c'est que c'est même pas Radio-Canada qui les construit, c'est pas le gouvernement qui les construit. Comme je dis, on vend le tout,
ouais,
à un promoteur qui, lui, construit un immeuble et loue les locaux
pour
à la
30 ans,
d'État.
Pour une durée de 30
pour
ans.
Pour 30 ans.
À peine.
Pour une durée de 30 ans. Donc,
ouais,
C'est même pas, je veux dire, pour l'instant, c'est la maison de Radio-Canada, mais ça pourrait bien déménager éventuellement.
Oui, ça pourrait devenir un centre commercial un jour.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est très bien dit parce que justement, là, je voulais en venir à la facture esthétique du projet. D'après,
oui,
moi, c'est un projet qui est plus à sa place au bord d'une autoroute périphérique. Ça ressemble à des locaux d'une compagnie d'assurance ou d'un,
oui,
concessionnaire automobile ou d'un centre commercial.
Oui,
très anonyme. Il y a très peu d'ambition architecturale. On peut dire que oui, il y a des améliorations par rapport à la tour brutaliste de 1970, mais est-ce que ça suffit de dire que c'est un peu moins pire? Il reste que c'est une architecture commerciale des plus banales qui ne contribue pas vraiment au quartier qu'il va habiter, au-delà du fait qu'il y a des bureaux, il y a des gens qui travaillent, donc qui vont alimenter les commerces du quartier autour, etc.
Et cet équipement-là est appelé à devenir le visage de la francophonie canadienne avec un grand F. C'est vraiment, comme tu le disais, lacunaire en termes d'ambition. On manque d'ambition gravement là, dans cette situation.
En fait, c'est devenu, je pense que on essaie de nous dire la nouvelle philosophie que c'est une qualité de ne pas avoir d'ambition pour ce qui est des infrastructures publiques.
Oui.
S'il y avait une quelconque ambition urbaine ou architecturale, ben ça aurait coûté un peu plus cher et puis,
oui,
alors ça aurait été considéré comme étant une mauvaise décision parce qu'on aurait dépensé de l'argent public.
Ben oui, dépenser de l'argent pour du service public, c'est mal vu. Et en disant que l'opération se fait à coût nul, Hubert Lacroix s'attend à se faire applaudir. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il se trouve des gens, effectivement, pour applaudir que l'opération se fasse à coût nul, alors qu'on aurait dû démontrer davantage d'ambition et investir, puisque c'est un investissement. C'est un investissement culturel et sociétal qui rapporte, nul besoin de le dire, je veux dire, c'est...
Ben oui, la société Radio-Canada, je veux dire, c'est un peu comme l'ONF et quelques autres institutions l'immigration a pratiquement façonné l'identité canadienne et nourri la production culturelle francophone, a permis la création d'une production culturelle francophone télévisuelle. Mais en même temps, je veux dire, on peut dire que l'architecture du nouvel immeuble reflète la nouvelle approche à Radio-Canada, puisque les émissions, le contenu qu'offre la société d'État se distingue de moins en moins de ce qu'offre le secteur privé en termes de diffusion télévisuelle. Et c'est d'ailleurs la philosophie de la société d'État, et comme de d'autres sociétés d'État, même Radio France à un certain niveau, que l'idée, c'est d'aller chercher des parts de marché au privé en essayant de ressembler plus à l'offre du privé, plutôt que de se dire que sa mission, c'est d'offrir un contenu et des informations autres.
Oui, voilà. Donc, une logique marchande et l'architecture se fait l'écho de cette logique qui prévaut
tout à fait.
Dans les contenus.
Oui, et d'ailleurs, pardon, c'est ça, une autre chose à ajouter justement à ce niveau-là, au niveau de l'architecture, c'est que la façon dont ces projets-là, qui sont des partenariats publics-privés, se fait, c'est qu'en fait, on ne fait plus des concours d'architecture comme on faisait à une autre époque, on fait des appels d'offres. Et alors, c'est des consortiums constitués par des promoteurs dépose une offre de service dans laquelle la qualité architecturale est une composante tout à fait mineure de l'évaluation de l'offre.
Comme c'est bien dit. Et tu voulais signaler ou tracer un parallèle avec le déménagement de l'ONF, l'Office national du film, qui est une autre grande institution publique canadienne, une institution qui produit des contenus cinématographiques depuis plus de 50 ans. Cette institution a son siège à Montréal également et elle a déménagé ou prévoit déménager prochainement, n'est-ce pas?
Oui, exactement. C'est ça. Donc, je veux pas seulement critiquer, je veux montrer qu'il y a aussi moyen de bien faire. Et justement, il y a un contre-exemple. C'est que l'ONF, pour l'instant, est dans des locaux qui sont au bord d'une autoroute, difficile d'accès en transport en commun, dans un lieu, une zone un peu marginale de la ville.
Oui.
Ces locaux vont déménager en plein centre-ville, aux abords de la place des festivals, donc près de la place des arts, là où se déroulent toutes sortes d'activités culturelles l'été. Et en fait, c'est un bâtiment qui démontre justement plus d'ambition architecturale et urbaine, qui est comme consciente. C'est un projet qui est conscient du lieu où il arrive et qui entend contribuer au lieu. Et je pense qu'on peut dire que c'est ça. C'est justement, là, on voit un peu d'audace et d'ambition en termes de l'affirmation de la présence d'un acteur public important dans la vie urbaine et culturelle.
Et
d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le projet s'est développé autrement. C'est que le promoteur du projet est un acteur public. Et souvent, ce qu'on remarque en architecture, contrairement à l'idée qui est souvent véhiculée, c'est que le secteur public peut être beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus novateur et audacieux que le secteur privé.
Fort intéressant. Et cette audace dont ils ont fait preuve pour leurs nouveaux locaux, et c'est rigolo, elle est le reflet de leur audace des dernières années dans le domaine des contenus numériques, par exemple. Ils ont vraiment innové. L'ONF s'est montré très téméraire même à certains endroits et ça a été payant. Ils ont exploré les nouvelles possibilités, ils ont été en pointe, ils sont même jusqu'à à toucher à la réalité virtuelle dans certains cas. Donc, ils ont vraiment donné aux Canadiens des contenus, des productions de grande qualité et c'est amusant. Leur immeuble sera quelque part une illustration de leur trajet des dernières années, j'ai l'impression.
C'est une perspective très intéressante que tu amènes. En effet, peut-être que l'audace... c'est ça. Dans le fond, l'architecture manifeste un peu la vie qui habite encore l'institution, alors que dans le cas de Radio-Canada, ça va dans le sens inverse. Et donc, juste pour dire, c'est ça, le promoteur public, c'est la SHDM, donc la société, le bras immobilier de la ville de Montréal, la Société d'habitation et de développement de Montréal, en partenariat avec cette institution gouvernementale. Donc, on voit qu'il y a moyen d'élaborer
Et ça a été plus fertile, ça a été plus fécond, ça a suscité une vision plus audacieuse, comme tu le disais, plus esthétique, qui frappe davantage l'imagination.
Oui, et aussi qui participe à un lieu, parce que je pense qu'à partir du moment où l'acteur, comme dans ce cas-ci, c'est la municipalité, la ville, mais la ville avait déjà une vision pour ce quartier-là. Donc, étant donné qu'elle est le promoteur, elle s'assure aussi que le bâtiment participe de cette vision. Alors que, malheureusement, dans le cas des nouveaux locaux de Radio-Canada, on dénote surtout une absence de vision ou une vision qui se limite à arriver à l'équilibre budgétaire sans plus.
Alors, c'est sur cette note optimiste, positive, sur les nouveaux locaux de l'ONF, l'ONF qui appartient à tous les Canadiens au même titre que Radio-Canada, qu'on va se laisser. Malheureusement, le temps imparti nous file entre les doigts, Jean-Christophe. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir ajouté tes lumières à une question d'aménagement du territoire ici dans le débrief.
Ben, merci à toi, Alexis. Ça me fait grand plaisir.
À très bientôt.